Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité du jour souhaite participer du lancement d'alerte sur les dangers extrêmes du développement de l'IA. En tout cas, c'est ma vision des choses. À travers son troisième livre sur l'IA, il pose un état des lieux documenté sur la situation pour nous dire que l'IA met l'humanité à la croisée des chemins, comme finalement un peu le nucléaire a pu le faire en son temps. Son propos vise à une prise de conscience forte et il propose des trajectoires, parfois exigeantes, mais envisageables pour pouvoir imaginer un avenir positif.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des possibles, la voix des communs. Cause commune que vous pouvez retrouver sur cause-commune.fm, sur son app mobile et en FM sur 93.1 et le DAB+ à Paris. En podcast, c'est sur votre plateforme préférée, bien entendu. Donc n'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des pouces. Bah, ça nous fait connaître, en fait. Et puis ça nous récompense un petit peu, quand même, globalement. Et puis, du coup, ça manipule les algorithmes. Et...
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
Peut-être vous souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an maintenant, des scènes de théâtre de boulevard que nous avons vécues en direct à la tête de l'entreprise phare de l'industrie de l'IA, OpenAI. En novembre 2023, Sam Altman est licencié par le conseil d'administration qui remet en doute sa sincérité sur la trajectoire des questions alors de copyright et de RGPD, pourquoi pas, mais aussi de sûreté. Ça, c'était un mot qu'on ne connaissait pas encore dans l'IA. 5 jours plus tard, il est réintégré. Le conseil d'administration est complètement réorganisé. On connaîtra le détail du fait divers, mais certains ont évoqué des divergences fortes entre les dirigeants de OpenAI sur la manière de gérer le développement sûr et le bon alignement de la technologie au sein de l'entreprise. Car si on croit certains experts, le développement des capacités des systèmes d'IA est beaucoup plus rapide et prometteur que prévu initialement. Cela engendre une puissance d'action phénoménale que nous ne sommes peut-être pas en mesure de maîtriser totalement. Et cette capacité d'action, même si elle est mal maîtrisée, aiguise les appétits et nous lance collectivement dans une course folle aux conséquences potentiellement catastrophiques. Bon, le sujet est complexe, parfois flou, souvent controversé. On peut rapidement être effrayé, perdu, en proie au vertige. Heureusement, notre invité du jour a décidé de nous partager son décryptage de la situation. Il n'est pas à son coup d'essai dans le domaine de l'IA. Après Hypercréation, où il nous expliquait le potentiel créatif de l'IA, et Hyperprompt, le manuel de référence pour savoir parler avec des IA, il sort son troisième livre, Hyperarm, qui décortique et propose des lignes de compréhension de la situation au niveau géopolitique. Bonjour Flavien Charvet.
Bonjour Jean-Philippe, merci de m'accueillir.
Bienvenue dans le studio de Cause commune. Je suis très content de vous recevoir pour ce troisième livre sur l'IA. On vous avait déjà reçu pour Hyperprompt. On avait un peu parlé d'hypercréation à l'époque aussi. Alors, parlez-moi d'IA, Flavien. Bah, comment se fait-il que vous ayez débuté l'écriture de ce troisième livre avec l'intention initiale, m'avez-vous dit, de parler d'IA et de questions environnementales, et qu'à l'arrivée, vous vous retrouviez avec un livre de géopolitique?
Alors bah déjà, la question environnementale est une question géopolitique à notre époque, mais c'est vrai que j'ai opéré un gros 360 puisque j'étais en train d'écrire même 2 manuscrits, un sur l'intelligence artificielle générale pour expliquer au grand public quelles sont les pistes de recherche et les pistes de développement qui sont en train d'être mises en œuvre pour y aller, comment on va construire une intelligence artificielle générale. Et puis à côté, un petit livre très poétique sur l'IA et l'environnement qui essaye de relier ces deux révolutions majeures de notre décennie. Et alors, ces deux projets, je les ai toujours, mais plus je les ai explorés, plus j'ai plongé dans les dimensions énergétiques de l'IA et les pistes de développement, en effet, d'intelligence artificielle générale, voire de superintelligence. Et plus je me suis rendu compte qu'il y avait une urgence à montrer que tout ça était en train d'aller beaucoup plus vite que ce que le grand public croyait ou que les médias pouvaient charrier. Et puis surtout... quand j'ai commencé à avoir cette prise de conscience, j'ai lu un rapport qui a fait beaucoup de bruit, qui est arrivé en juin, un rapport qui parle justement des courbes de développement de la technologie et qui parle des conséquences géopolitiques. Et c'est un rapport qui, en le lisant, m'a beaucoup bouleversé. Il s'appelle Situational Awareness. Il a été écrit par Leopold Aschenbrenner.
On va y revenir.
On va y revenir sûrement. Et ça a été l'élément déclencheur. Toutes les idées qui commençaient à bouillonner face à ce rapport, elles se sont un peu mises en ordre. Et je me suis dit, déjà que ce rapport était quelque chose de très dangereux s'il atteignait le grand public, qu'il fallait avoir des contre-discours. Et puis, tout de même, il m'a éveillé à une urgence encore plus forte du sujet géopolitique de l'IA. Donc c'est ça qui m'a fait plonger dans l'écriture. J'avais déjà beaucoup d'idées, donc ça a été une écriture assez heureuse.
Et cette logique globale, vous nous la partagez désormais avec HyperArm. Peut-être on peut commencer peut-être par déjà bien différencier les types d'IA dont on parle. Il y a les IA en lien avec l'analyse de données, avec la prédiction, avec et puis il y a les IA génératives.
En effet, il y a une distinction assez forte dans le type d'IA. On parle d'IA prédictive et d'IA générative. En fait, les deux apprennent sur des données, des exemples. Les IA prédictives, à partir des exemples d'entraînement, elles vont être capables d'identifier, de comprendre des nouveaux exemples qu'on leur montre. Donc, elles vont, par exemple, permettre de... Si on leur montre beaucoup d'images de radio avec des fractures et de radio sans fracture, ensuite, on leur montre une nouvelle image, elles seront capables de dire s'il y a une fracture dessus. Et puis, les IA génératives, à partir de tous les exemples d'entraînement, elles vont apprendre à générer des nouveaux exemples qui ressemblent aux exemples d'entraînement. Donc, pas à reconnaître des exemples qu'on leur propose, mais à générer de toutes pièces des nouveaux exemples. Et là, c'est l'exemple, évidemment, de ChatGPT, de toutes les IA qui font des images, etc., qui sont la vague d'aujourd'hui. Mais la question géopolitique de l'IA concerne les deux. Ces deux systèmes d'IA sont en fait de plus en plus intégrés. Les grands modèles d'aujourd'hui sont capables de faire et du génératif et du prédictif assez souvent. Et puis, il y a une autre distinction qui est plus verticale, c'est en effet le niveau de puissance de l'IA. Donc on est passé d'IA restreinte, qui était la révolution 2012, on va dire, à des IA plus généralistes, c'est ce qu'on appelle les modèles de fondation, on est dedans aujourd'hui, et on va vers des IA qui seront dites générales réellement, donc avec une capacité qui ressemble à celle de l'humain, capable de réaliser tout ce qu'un humain peut réaliser, et puis encore au-dessus, aux super intelligences qui sont considérées comme étant plus intelligentes que n'importe quel humain, voire même que toute l'humanité réunie. Et ça aussi, on ne sait pas si on y arrivera, mais dans mon livre, j'en parle parce qu'il y a des pistes de développement maintenant très sérieuses pour y aller.
Et donc, vous faites justement l'état des lieux, hein, des caractéristiques actuelles des IA, alors notamment appliquées à l'armement, au niveau de puissance, et vous décrivez justement les grandes caractéristiques de ce nouvel arsenal finalement dont on dispose.
Voilà, donc dans mon nouveau livre HyperArm, je pars de l'aspect militaire, donc je décris comment l'arsenal du monde, donc de toutes les grandes puissances, est en train de vivre une révolution extrêmement rapide du fait de l'arrivée de l'IA. En gros, on était encore, il y a quelques mois, quelques années, dans l'arsenal hérité de la guerre froide, donc un arsenal militaire fondé sur des armes lourdes, avec ce principe de dissuasion. Il faut quelques armes très 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 pointues, très difficiles à produire et très chères. Chaque missile, c'est des coûts astronomiques. Évidemment, faire une bombe nucléaire, c'est extrêmement compliqué. On veut des chars, on veut des armes à la pointe. Bref, un armement de pointe, comme on dit. Ce type d'armement-là, est en train de laisser la place à un type d'armement beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide à produire, beaucoup plus léger, qui se matérialise grâce au numérique et notamment grâce à l'IA. Alors, les caractéristiques de ce nouvel arsenal, il y en a trois. La première, c'est que c'est un arsenal qui est, j'appelle, ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il est capable de voir partout. Quand on a des satellites un peu partout autour de la Terre, on peut avoir énormément d'images de ce qui se passe, des images de plus en plus précises, mais pour analyser tout ce flux-là, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être capables d'identifier, par exemple, quand il y a une base ennemie qui s'est déplacée, quand il y a une nouvelle route qui apparaît, on se dit qu'il y a peut-être une troupe qui est en train qui est en mouvement et qui prend un chemin parallèle. Quand on voit un sous-bois qui s'éclaircit, on se dit qu'il y a peut-être des troupes qui se sont installées dans ce sous-bois-là de façon discrète, etc. Et donc, ça permet de suivre le mouvement de l'ennemi, mais bien sûr, ça permet aussi de suivre le mouvement des populations, des citoyens. Et puis, l'autre panoptique, il y a le panoptique du ciel, on voit tout depuis le ciel, et puis l'autre panoptique, c'est le panoptique du numérique, on voit tout depuis les réseaux, et donc des IA qui analysent toutes les images qu'il peut y avoir sur Internet, aussi des flux audio pour, par exemple, repérer la présence d'une cible ennemie sur une image qui serait passée inaperçue, ou en effet, repérer des éléments intéressants dans des flux radio qui pourraient être compilés les servir de base d'information pour les militaires.
Et tout ça, vous nous dites que finalement, le terrain de jeu de tout ça, c'est, en ce moment, c'est l'Ukraine. C'est le conflit en Ukraine qui sert de laboratoire d'expérimentation de toutes ces nouvelles armes, finalement.
Ouais, tout à fait. L'Ukraine est en train d'accélérer énormément le passage à la réalité de cet arsenal. Alors, dans le conflit avec les Ouïghours, dans le conflit israélo-palestinien, on a des exemples similaires, mais c'est vrai que l'Ukraine cristallise ça de façon très très forte. En fait, au début de la guerre en Ukraine, il y a eu une colonne de chars immense, enfin une colonne de blindés, 64 kilomètres de cet ancien arsenal hérité de la guerre froide, qui ont déferlé pour aller attaquer Kiev. Et quand ce convoi de 64 kilomètres, hein, 64 kilomètres, c'est la plus grande force terrestre opérationnelle déployée depuis la Deuxième Guerre mondiale.
On l'a vu, les images étaient impressionnantes.
Voilà, quand on regarde les images satellites, ça donne des frissons, donc les Russes y sont allés à fond. Et en fait, à l'approche de Kiev, la colonne de chars, donc tout le monde se disait qu'elle allait écraser Kiev, et il y a une équipe s'appelle Aerorozvitka, qui était composée d'une vingtaine de geeks, en fait, qui, pendant la nuit, avec des lunettes vision nocturne et des drones intelligents, s'est faufilé proche de la, du convoi de tête. Et grâce à des drones, ils ont ciblé les chars de tête et ils ont fait exploser les chars de tête. Et en fait, on était sur une petite route, un peu bouée sur le côté, et donc tous les autres chars, en essayant de contourner, ont commencé à s'empêtrer dans la boue, et ça a complètement arrêté le convoi. L'équipe a continué à envoyer des drones pour frapper des points de ravitaillement un peu critiques, et au bout de deux jours, le convoi a dû faire demi-tour et rentrer en Biélorussie, donc 64 km de convoi de l'ancien arsenal, bloqué par 20 geeks avec des drones légers du nouvel arsenal. Et donc ce moment, il est très critique, et toute la suite de la guerre en Ukraine va avoir cette couleur-là, avec... des moyens énormes mis en place par les Russes avec un arsenal lourd et une réponse en face liée aux nouvelles technologies avec notamment la société Palantir qui va venir au cœur du gouvernement ukrainien pour apporter ces technologies d'intelligence artificielle et essayer de reproduire cet effet un peu David contre Goliath.
Et ces nouvelles armes en plus, via l'IA en plus, elles sont autonomes, c'est-à-dire que les armées les lancent et elles se débrouillent toutes seules finalement pour atteindre leurs objectifs.
Pour l'instant, dans le droit international, c'est pas encore clair. On n'a pas souvent des cas d'armes complètement autonomes. On a eu quelques cas, et c'était des cas qui dépassaient normalement la loi militaire accepte. Mais en effet, on a la possibilité maintenant d'avoir des drones qui sont autonomes. C'est la deuxième caractéristique de cet arsenal. Donc, un drone autonome, il peut, ça c'est déjà le cas, repérer une cible, la verrouiller et la suivre en autonomie. Par contre, pour l'instant, le soldat est encore censé appuyer sur la gâchette au moment de tirer. Mais ce moment d'appui sur la gâchette, évidemment, il ajoute de la lenteur. Il faut qu'il y ait une connexion entre l'arme et le soldat qui peut être hacké, qui peut être perdu, etc. Et donc, de plus en plus, évidemment, il y a cette envie de donner complètement l'autonomie à l'arme et qu'elle puisse aussi tirer. Ça, c'est inquiétant, mais ce qui est encore le plus inquiétant, c'est que les nouveaux systèmes d'IA, notamment via GPT, enfin, c'est pas du GPT, mais des équivalents, font remonter l'autonomie beaucoup plus haut dans la chaîne de commandement. L'arme autonome, c'est ce qu'on a dans l'imaginaire collectif, mais la stratégie militaire qui s'autonomise, le fait qu'à un moment, ces systèmes deviennent des assistants pour les généraux, pour les commandants, pour choisir leur tactique, leur stratégie militaire, c'est une chose. Et puis c'est pareil, à un moment, quand la stratégie sera suffisamment bonne de la part de l'IA, pourquoi laisser encore le temps de l'humain qui doit comprendre la stratégie, accepter de la mettre en œuvre, etc. Ben, on branche la chaîne de commandement autonome à des armes autonomes et on voit ce qui se passe. On n'y est pas encore, mais...
Mais le parallèle est quand même assez simple, c'est-à-dire qu'AlphaGo a appris tout seul à jouer au Go, on pourrait très bien imaginer que certaines IA apprennent à des stratégies militaires toutes seules en fonction de ce qu'on leur montre de ce qui s'est passé avant, et qu'à un moment donné, effectivement, ça devienne des grands assistants de généraux dans la stratégie.
Alors AlphaGo, c'est un bon exemple, mais on a encore plus proche, on a AlphaStar, qui est aussi DeepMind, donc là, ça a appris à jouer à Dota 2, qui est un jeu de stratégie militaire...
Très proche de la stratégie militaire classique.
Quoi. En tout cas, d'une complexité qui s'en rapproche, c'est un des jeux les plus complexes au monde et l'IA écrase l'humain maintenant. Et puis l'IA aussi en 2022, l'IA de Meta joue à diplomatie au niveau d'un humain. Diplomatie, c'est un jeu où il faut parler en langage naturel à d'autres humains pour essayer de créer des alliances internationales pour battre d'autres pays.
On voit bien comment ça fonctionne, mais vous pensez que les généraux, ils vont accepter ces assistants qui vont peut-être être meilleurs qu'eux au bout d'un moment?
Alors, évidemment que non, mais si un des... Par exemple, on est dans une logique de guerre, si un des pays pour gagner un avantage stratégique, commence à donner la main à l'IA et que ça marche, le pays d'en face va être obligé de réagir en donnant la main à l'IA parce que ça ira trop vite.
Ça pose quand même un problème. Alors là, on vient sur des notions un peu fondamentales liées à l'IA. Vous revenez sur la notion de convergence instrumentale, cette idée qu'en fait, effectivement, on fixe à l'IA un but ultime et que sur le chemin, pour y arriver, elle va prendre des buts instrumentaux, des buts intermédiaires. Alors le but ultime, lui, il est peut-être, il a peut-être les bonnes notions, il a peut-être les bonnes finalités, il est bien comme il faut, mais par contre, potentiellement les buts instrumentaux, les buts intermédiaires, qui en plus peuvent être créés de manière autonome par l'IA, lui, il va peut-être avoir des effets nocifs globalement.
C'est ça, c'est ce que je montre dans HyperArm. En fait, contrairement par exemple à une bombe nucléaire, on aime bien faire le rapprochement avec le nucléaire, mais le nucléaire, c'est presque une arme propre. On sait qui on vise et on sait quel va être l'effet. On est capable de mesurer dans l'espace et dans le temps ce qu'on va produire comme effet. Alors, il peut y avoir un retour de bâton, l'autre nous envoie une bombe aussi, mais on sait ce qu'on fait quand on utilise une bombe nucléaire. Avec un système d'IA, il y a un problème qui... Alors, tu parles de convergence instrumentale, c'est le nom technique, mais le nom un peu plus simple, c'est le problème de l'alignement. En effet, le fait que quand une arme devient autonome, pour atteindre l'objectif qu'on lui a donné, elle puisse maximiser des objectifs intermédiaires qui sont extrêmement dangereux. Donc si on dit à l'IA, bah, tu dois gagner de l'argent, peut-être qu'elle va se dire, bah, je vais tuer certains humains pour leur piquer leur pognon. J'exagère un petit peu, oui, mais c'est un peu l'idée. Ça, si t'as pas de cadre éthique ou moral bien implanté, tu peux prendre ça comme une stratégie qui est fonctionnelle pour atteindre ton objectif.
Ça recoupe l'idée du philosophe suédois Nick Bostrom avec son maximiseur de trombone, en fait.
Tout à fait, c'est l'expérience de pensée. On demande à l'IA de maximiser notre usine de trombone pour qu'elle fasse le plus de trombone possible, et très rapidement, le système d'IA, une fois qu'il a tout bien optimisé, qu'il a racheté toutes les usines de trombone du pays, qu'il a pris le pouvoir du monde pour faire des trombones de partout dans le monde et qu'il a transformé toute la planète Terre en usine de trombone, il commence à se dire, j'ai besoin de plus d'atomes, les humains sont faits d'atomes, ça tombe bien, et on se retrouve dans un avenir où il y a beaucoup plus de trombone mais beaucoup moins d'humains. Et il l'a fait, c'est pas Terminator où il est malveillant, au contraire, le système est bienveillant, il veut, par excès de zèle, il va détruire l'humanité pour atteindre son objectif.
C'est un gentil maximisateur de trombone.
Mais alors ça c'est une expérience de pensée un peu poussive, hein. Mais dans le cas de l'armement, ça pose une question. Si on a des systèmes d'IA liés à l'armement et qu'on n'arrive pas à les aligner correctement, bon, déjà on peut se demander, est-ce qu'on veut de l'IA à ce niveau-là au niveau militaire, est-ce que c'est pas très dangereux
question, effectivement.
En soi, mais si en plus ces systèmes-là commencent à produire des comportements qui sont pas ceux attendus par les militaires et qu'on perd un peu le contrôle, bah évidemment là on se retrouve dans de la science-fiction assez sombre. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, parce que
vous avez des bonnes nouvelles.
Mais bien sûr, ce livre il montre les risques existentiels parce qu'il faut prendre le taureau par les cornes, mais il présente quels sont les espoirs existentiels.
Oui, il est un peu, alors on peut le dire, il est un peu angoissant ce livre, mais vous avez beaucoup de pistes positives.
Le constat au niveau militaire est un peu angoissant, mais il est là, c'est pas moi qui l'invente, je parle de choses uniquement très factuelles. Par contre, après mes présentations de scénarios potentiels géopolitiques, en fait, j'amène, j'espère, le lecteur sur quelque chose de beaucoup plus qui porte beaucoup plus d'espoir.
Oui.
Et la question de l'alignement fait partie de cet espoir parce que ces systèmes sont très difficiles à aligner. Il est probable qu'on classe pas du tout l'IA dans la catégorie des armes nucléaires, qu'on la traite pas de la même façon, mais qu'on la traite beaucoup plus comme on a traité les armes biologiques. On n'a jamais eu de guerre biologique ouverte, il y a eu des débordements, mais on a quand même su, grâce à un grand traité qui a été mis en place au début des années 70, s'organiser collectivement et mondialement pour éviter qu'il y ait un armement biologique qui prolifère. Pourquoi ? Parce que les armes biologiques, c'est justement des armes un peu sales. Si on les envoie sur son voisin, c'est pas circonscrit dans le temps et dans l'espace. Il y a un gros risque que ça nous retombe dessus, que les virus se développent, qu'ils mutent, etc. Bref, on contrôle pas notre arme. Et c'est pour ça que les militaires et les gouvernements se sont dit « Ah non, on veut pas développer notre arsenal. C'est un arsenal qui risque de nous retomber dessus. Et en plus, c'est un arsenal qui est facile à développer. Donc si on commence à pousser c'est ça, des petites puissances vont pouvoir s'armer et venir contrebalancer la puissance nucléaire qu'on a. Et donc, on va remettre en cause le fait qu'on est les seuls à avoir des armes de destruction massive. Avec l'IA, on a exactement les mêmes caractéristiques. C'est peu contrôlable, ça risque de se retourner contre celui qui l'a lancé si l'IA n'est pas bien alignée. Et aujourd'hui, les IA les plus avancées, on ne sait pas comment les aligner. Et c'est massivement accessible. Si une super IA militaire existe, il suffit que un hacker arrive à faire sortir le code, et là, poum, on a une prolifération extrêmement rapide partout sur la planète.
Bon, du coup, vous posez effectivement un état de fait Avec beaucoup beaucoup d'histoires, de chiffres, de documentation sur voilà une IA qui est très forte, qui est désormais qui va de plus en plus dans son autonomie, dans sa capacité même de résilience à travers les réseaux potentiellement. Vous venez de le dire, qui se propage et qui pourrait rester en place. Et puis du coup, il y a ce fameux rapport donc que vous avez évoqué, Leopold Aschenbrenner, Situational Awareness, connaissance de la situation. En fait, il lance une première alerte. Et là, là pour le coup, il nous parle de la capacité aujourd'hui à développer des IA monstrueuses, enfin exceptionnellement puissantes.
En fait, donc il y a deux parties dans ce rapport. La première partie, elle présente le scénario de développement technologique tel qu'il est perçu par tous les investisseurs, par la Silicon Valley, etc., qui est un scénario très radical, qui nous dit, en fait, on a des lois de croissance, des lois d'échelle. Quand on regarde les 15 dernières années, on est capable de tracer une courbe de comment les systèmes d'IA évoluent dans le temps. Et si on continue, si on rajoute des points, on continue à tracer la courbe, on peut s'attendre à des systèmes d'intelligence artificielle générale autour de 2027-2028 maximum, et on peut s'attendre à des super-intelligences d'ici 2030.
Alors c'est quoi une super-intelligence ?
Donc comme je disais, c'est un système d'IA qui est plus intelligent que toute l'humanité réunie, plus ou moins, même si on n'a pas vraiment de critères pour le définir, parce qu'à ce niveau-là, on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Donc c'est plus une intuition qu'un concept. Autant l'intelligence artificielle générale, on peut le définir de façon assez pragmatique comme un système qui est capable de réaliser toutes les tâches cognitives qu'un humain peut réaliser. Autant la super-intelligence a un concept flou qui est plutôt de dire c'est ce qui se passe après.
D'accord, voilà. Ok.
Parce que vu que c'est plus intelligent que nous, on ne sait pas exactement comment en parler.
D'accord.
Et on ne sait même pas vraiment si ça va arriver.
Même sur la GI, donc sur l'intelligence artificielle générale, vous avez un double concept qui est malin, du coup, parce qu'effectivement, ça évite un peu les débats stériles. Vous dites il y a la GI philosophique, effectivement, on ne sait pas trop le définir, c'est un peu global, on ne sait pas trop où ça commence, où ça s'arrête. Et puis la GI opérationnelle, et ça fait des actions. Et tout simplement, ça fait des actions de manière plus efficace que les experts de chacun des domaines. Quoi.
C'est ça, le terme intelligence artificielle générale, il a été très décrié parce qu'il donne l'impression que c'est de l'intelligence humaine. Et le terme intelligence, on a beaucoup de mal à le définir, donc il y a un débat philosophique si on se lance là-dessus. L'intelligence artificielle générale définie de façon pragmatique, des fois on dit l'intelligence artificielle à usage général pour mettre l'accent sur l'usage et pas sur l'intelligence. On parle aussi d'intelligence artificielle capable, d'intelligence artificielle puissante. Il y a tous ces mots-là qui permettent d'avoir d'autres termes. Et c'est là beaucoup plus pragmatique. Peu importe que ça fonctionne comme un humain, peu importe qu'on puisse dire que c'est vraiment intelligent, le fait est que c'est capable de réaliser tout ce qu'un humain peut réaliser. Ça a les mêmes compétences, si ce n'est l'intelligence, qu'un être humain. Et après, savoir si les compétences suffisent à définir l'intelligence, ça, c'est un autre débat plus compliqué.
Et la super-intelligence, finalement, même si effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est, puisque ça nous dépasse, mais ça permettrait de faire quoi ? Et donc, du coup, ça a quelles conséquences ? Notamment d'un point de vue militaire ou d'un point de vue géopolitique, c'est quoi la grande conséquence ? Ça va être des problèmes de cybersécurité ? Ça va provoquer des problèmes globalement de maîtrise des système numérique ?
Alors, l'arsenal autour de l'IA tel qu'il est conçu, si on projette quelques années en avant avec les courbes de développement qui sont proposées par l'écosystème de l'intelligence artificielle, on se retrouve en effet avec un arsenal qui commence à être capable de hacker à peu près n'importe quelle infrastructure critique. Je pense que ça sera la première chose que le grand public va voir. On va avoir ce qu'on appelle un warning shot, donc un premier coup où un système d'IA va permettre à une cellule terroriste de hacker quelque chose de façon très efficace, et ça va réveiller un peu le monde sur le fait qu'il y a un enjeu militaire très fort. Mais si on pousse aussi un peu, il y a la capacité de systèmes très intelligents à faciliter énormément aussi la création justement de virus, et à réactualiser la question des armes biologiques en mettant dans les mains de n'importe qui la capacité à en produire ou en tout cas à en conceptualiser. Il y a aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait que ces systèmes commencent à inventer des nouvelles stratégies militaires extrêmement complexes et que ça c'est beaucoup plus systémique, ça entraîne le système à manipuler la géopolitique mondiale sans que l'humanité s'en rende compte, grâce au réseau, grâce à...
Des informations
à la désinformation, etc. Oui. Et que là, aujourd'hui, c'est encore des actions qui sont menées de façon volontaire pour, par exemple, en 2017, il y avait eu ce scandale de Cambridge Analytica pour faire élire Trump, mais on sait d'où ça vient. C'est encore l'humain qui utilise des algorithmes. Si des algorithmes deviennent de plus en plus autonomes pour optimiser, par exemple, l'objectif pour les Américains d'écraser l'influence chinoise dans le monde occidental, disons, voilà, ça pourrait être logique de la part de l'armée américaine, et ben le système d'IA va peut-être commencer à produire sur les réseaux énormément d'actions qui ne seront pas choisies action par action par la chaîne de commandement et qui vont entraîner des conséquences très imprévisibles par effet rebond sur la façon de penser de l'humanité, en fait.
Donc cette super intelligence, pardon, apparaît comme une hyper arme. Et du coup, il y a une course qui se lance dans les grandes puissances pour arriver à maîtriser cette super intelligence. Il y a une course que vous décrivez aussi, du coup, essentiellement entre Chine et États-Unis.
Alors, Vladimir Poutine a dit « Le premier qui a de l'intelligence artificielle générale est maître du monde ». Donc, ça donne un peu le ton. Et en effet, il y a un risque que les États-Unis et la Chine, c'est pas encore le cas, ils sont pas dans une course à l'armement ouverte. Il y a une première course aux puces, aux processeurs pour entraîner des IA. Ça, oui, une course commerciale et technologique. Il n'y a pas une course à l'armement encore autour de l'IA. Mais quand on projette ce qui est en train de se passer dans la guerre en Ukraine, ce que ces arsenaux sont en train de devenir, on peut très facilement imaginer que à l'arrivée de l'horizon AGI, là, dans 1-2 ans, les États-Unis ou la Chine décident de rentrer dans une logique de course à l'armement et que, c'est la proposition de Leopold Aschenbrenner dans son rapport, on voit émerger, ou en tout cas on ne voit pas émerger, puisque de la part du grand public ça sera secret, quelque chose qui ressemble au projet Manhattan qui a eu lieu pour le nucléaire, pour développer de l'AGI, de l'intelligence artificielle générale, de la super intelligence en premier, pour prendre le pouvoir.
Et d'après vous, donc, c'est quoi maintenant les scénarios à partir de là, des différentes puissances?
Le problème de ce scénario-là, c'est qu'il est un peu autoréalisateur. Si on commence à beaucoup raconter ça, bah, d'une part, la Chine va se dire « Ok, donc les Occidentaux, ils sont en train à fond de se mettre sur un projet Manhattan, il faut qu'on rentre dans la course. » Et les gouvernements américains vont se dire « Ah, les experts sont en train de dire qu'il faut qu'on fasse une course à l'armement, donc allons-y. » Et donc, c'est là où il y a une alternative qui est en train de se structurer, heureusement. Il y a une ébullition de technodiplomatie, et la Chine est très active dessus. La Chine a bien plus parlé des risques et des enjeux d'alignement de ces systèmes-là que pour l'instant, par exemple, l'Europe. Mais il y a toute une technodiplomatie qui se met en place pour essayer non pas d'entrer dans un jeu de compétition, une sorte peut-être de projet Manhattan de l'IA, mais de mettre en place une coopération, une gouvernance internationale, comme aujourd'hui on en a une autour du nucléaire, comme on en a une autour des armes biologiques, pour qu'on s'organise collectivement pour faire émerger la technologie d'un point de vue civil, par exemple avec quelque chose comme un CERN de l'IA, ok, on développe de l'intelligence artificielle générale pour avoir des retombées civiles et créer des nouveaux produits, résoudre des nouveaux problèmes, en créer aussi d'autres comme le font tous les produits évidemment, mais au moins on n'est pas dans l'ordre de l'existentiel et du militaire.
C'est là où l'Europe du coup a une carte à jouer importante.
C'est là où potentiellement l'Europe a une carte à jouer parce que d'une part elle s'affirme d'une certaine façon comme terrain neutre par rapport aux États-Unis et à la Chine. Elle a déjà perdu la course à la puissance brute, ouais. Donc elle est un peu terrain neutre et on voit déjà ça, les grands sommets, il y en a eu déjà deux, il y en a un troisième qui arrive à Paris en février, les grands sommets pour la sécurité de l'IA qui réunissent les dirigeants pour parler de ces sujets-là. Ces sommets ont déjà commencé. Ils ont eu lieu pour l'instant en Angleterre, à Séoul et du coup à Paris en février 2025. Donc ils n'ont pas eu lieu aux États-Unis ou en Chine parce que l'Europe est un peu un terrain neutre. Et puis quand on entend des propositions autour d'un projet comme un CERN de l'IA, bah, on réactualise un petit peu ce qu'on a fait avec l'accélérateur de particules, ouais. Du CERN justement. On entend beaucoup la Suisse comme là aussi un terrain neutre pour mettre ce grand projet scientifique.
Bon, en tout cas c'est votre piste d'atterrissage du livre Hyperarmes, le choix de l'Europe, le choix des capacité de gouvernance de l'Europe et peut-être les choix positifs pour l'humanité carrément en lien avec l'IA qui se développe. Ben, merci beaucoup Flavien Charvet, c'est déjà l'heure de conclure cette émission. Merci pour ce décryptage. On retrouve du coup votre livre Hyperarmes. Alors là, on a juste effleuré le sujet dans cette émission parce que il est beaucoup plus riche que tout ça et chacune des parties peut être développée. Vous êtes publié chez Nullius in Verba et vous êtes d'ores et déjà en pré-vente au moment où on sort cette émission jusqu'à quasiment 19 janvier, donc vous pouvez retrouver sur hyperarmes.com.
Tout à fait.
Bah écoutez, merci beaucoup Flavien.
Merci à vous.
et à bientôt. Merci à vous aussi, chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler les algorithmes. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Allez faire un tour sur causecommune.fm pour découvrir nos autres programmes. À bientôt.